I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Aujourd'hui, on va voir si Patrick fait ou non un mea culpa et on va beaucoup parler des Game Awards. C'est tout de suite dans le rendez-vous jeu. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu. Je suis Patrick Béja, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. C'est l'épisode numéro 272 en décembre 2022, la fin de l'année approche, et l'épisode GOTY aussi, ça sera la semaine prochaine. Mais en attendant, je remercie très chaleureusement les nouveaux patriotes Samuel Ferreira, Gazou et Alex B qui rejoignent l'équipe, l'armée, la famille des patriotes, ainsi que le producteur de cet épisode, Lancelot Davizard. Vous avez tous l'immense privilège d'avoir un épisode où possiblement Patrick va faire quelque chose de rare, admettre qu'il a peut-être eu un peu tort, mais au fond, pas vraiment. Pas vraiment. Et on va voir comment ça va se passer. Je suis donc avec... j'oublie de présenter Hélène Ripley qui est là avec nous. Salut Julie, comment ça va?
Écoute, ça va très bien, prête pour un tête-à-tête.
Hein. Mais oui, parce que, alors, on vous raconte les coulisses de la production de cette émission. Normalement, Kevin Sicurel, l'ami Moguri, doit participer à cet épisode. On ne sait pas ce qu'il fout. On s'inquiète un petit peu. Il a peut-être pris une cuite après France-Maroc hier, c'est possible. On ne sait pas. Mais peut-être qu'il débarquera comme ça au milieu de l'épisode. Mais du coup, en attendant, c'est tête à tête avec Julie, c'est peut-être pas plus mal. En même temps, il y a quelques spectateurs sur Twitch aussi, donc on n'est pas tout à fait seul pour parler de nos...
Oh, c'est vrai, c'est vrai. Vidéoludiques.
Donc, qu'est-ce que quoi? Où on en était? On en était au début de l'émission, sans jingle. Du coup, peut-être que l'intro, enfin le générique, il aura été ajouté par magie au montage. Là, par contre, pour les grosses infos de la semaine, ça sera pas ajouté au montage. Donc, je vais essayer de le faire comme ça à la bouche. Non, c'est pas du tout ça. Patrick,
je propose que tu fasses ça toute la saison. Les bruitages à la bouche, ça, c'est une valeur ajoutée incroyable.
C'est bien, elle se termine. Mais il faudrait que je travaille un petit peu, tu sais, un petit peu plus mes performances de musicalité vocale. Peut-être qu'il faudrait des mélopées, tu sais, genre « Ce sont les news à retenir aujourd'hui et cette semaine. » Bon, ça fait un
et
peu...
Et maintenant, un mea culpa chanté. On slame.
Alors en slam, je sais pas, je suis un petit peu trop vieux pour ça. Moi, c'est plutôt style Michel Drucker, tu sais comment c'était samedi soir dans les années 80. Voilà,
en rap, référence.
C'est compliqué. Mais du coup, mea culpa. Alors, suis-je coupable? Je sais pas. Coupable de m'être trompé, possiblement. Vous avez été nombreux. Alors, il y a certaines personnes qui pourraient passer sous silence les erreurs qu'ils font. Ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai le courage de faire face à mes contradictions, à mes erreurs, à mes fautes. Et aujourd'hui, je le fais dignement, courageusement, en admettant que, possiblement, je me suis peut-être un petit peu planté dans mes estimations, dans mes évaluations, dans mes analyses sur la situation. Vous avez été quelques-uns à me le dire. Me le signaler quelques-uns sur Twitter et ailleurs. Parce qu'en fait, quand je vous disais la semaine dernière que la FTC n'allait certainement pas tenter de bloquer le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, qu'on allait très certainement avoir le lendemain de l'enregistrement de l'émission une annonce d'accord entre la FTC et Microsoft pour une validation du rachat, eh bien en fait, presque avant que l'émission soit publiée, la FTC a annoncé qu'elle lançait un procès pour bloquer ce rachat. Et du coup, les gens qui écoutaient l'émission avaient déjà, la plupart se tiennent au courant, donc ils avaient déjà l'information que le procès était lancé, enfin que le blocage, la procédure de blocage était lancée, et ils m'entendaient dire que non, pas du tout, ça n'allait jamais arriver. Donc, forcément, c'est un peu, c'est comique, ça fait rire. Ceci dit, bon, clairement, quand je disais non, non, ils vont trouver un accord, là, c'est pas tout à fait exact. Par contre, alors peut-être que ça le deviendra hein, d'ici quelques mois, mais par contre, moi, j'estime que mon analyse reste valide. Et je pense que la plupart des analystes sont un petit peu sur cette ligne-là. De quoi il s'agit ? Alors, déjà, entre parenthèses, si vous voulez un résumé complet de toute cette affaire qui est un petit peu compliquée, je vous recommande l'article de notre ami Kassim sur Frandroid, qui a fait un compte-rendu, vraiment l'un des plus complets que j'ai lu, en résumant très habilement tous les éléments importants de cette affaire, sans rien oublier, mais sans trop compliquer. Et il y a énormément d'infos, et je le trouve vraiment super bien fait. Il est sur Frandroid, vous pouvez le retrouver. L'article s'appelle « Le rachat d'Activision par Microsoft a-t-il échoué, tout comprendre au feuilleton de l'année ?» Il sera dans la newsletter, d'ailleurs, à laquelle vous pouvez vous abonner sur notrepatrick.com. Il sera dans la newsletter de cette semaine. Et donc ça, c'est pour tout comprendre. Mais l'analyse en elle-même, je pense qu'elle reste vraiment juste. Et la plupart des analystes et des experts légaux et de l'industrie semblent dire que la procédure de la FTC a vraiment peu de chances d'aboutir parce que la concurrence ne serait... Il est difficile d'argumenter du fait que la concurrence serait affectée par le rachat, enfin, qui serait dans une situation anticompétitive. Vraiment, c'est très, très compliqué. Les marchés, ça colle pas. La taille de l'activité, ça colle pas. Enfin, vraiment, devant un juge, parce qu'ils vont devoir convaincre un juge de leur administration du bien fondé de leur action, tout le monde semble assez d'accord pour dire que ça risque de pas passer. Maintenant, l'intention de la FTC semble claire, c'est de dire bah, les grands rachats, maintenant, ça suffit, on va tous les combattre, on va tous... C'est le message, comment dire, qui est politique par nature, mais qui est le message de l'intention du gouvernement, qui n'est pas directement impliqué, hein, la FTC est indépendante, mais Lina Khan, qui a été nommée justement pour mettre un petit peu le holà à la puissance des GAFAM, et c'est peut-être la bonne solution, la bonne décision hein, pour ça, pour dire, on s'en fout, nous, on va y aller, on va essayer de tout combattre. Eh ben, peut-être que ça va avoir un effet sur les velléités des GAFAM à l'avenir, ça c'est tout à fait possible, et c'est peut-être une bonne stratégie, je ne le nie pas, mais sur la logique de blocage de ce rachat, bah ça tient pas vraiment quoi. Ça tient pas. En plus, il y a eu des sortes d'incompréhensions entre ce qu'avait dit l'Union européenne et ce qu'ils avaient pas dit et ce qu'ils avaient dit pour le rachat précédent. C'est vrai que Microsoft avait assuré, enfin ils avaient laissé planer le doute sur le rachat de Bethesda, enfin de ZeniMax. Ils disaient bon, on n'a pas vraiment intérêt à mettre des trucs en exclusif. Et puis
oui,
finalement,
pareil pour Call of Duty. ZeniMax qui...
Alors pour Call of Duty c'est un peu différent parce qu'ils mettent les contrats partout, ils disent si on signe des contrats on le donne à qui
on vous assure que oui pendant 10 ans au moins.
C'est ça, exactement. Donc bref, on est dans cette situation où pour la FTC ça risque d'être difficile de vendre le truc au juge qui va juger l'affaire. Le résultat ne sera donné qu'en 2024, enfin en août ça commencera et ça risque d'arriver qu'en 2024 le résultat final. D'ici là, bah tout est un petit peu compliqué, ils pourraient finaliser leur rachat chez Microsoft même si la décision est encore en cours, mais si la décision dit qu'ils peuvent pas, bah après ils devront se reséparer du truc. Enfin bref, c'est très compliqué. Ils doivent payer des amendes si ça ne se fait pas ou s'ils se dédisent et le montant des amendes augmente s'ils attendent trop pour se dédire. Et surtout, en attendant, il y a ce qui se passe dans l'Union européenne et en Angleterre, les deux grosses autorités qui sont encore en train d'étudier le truc aussi, qui, elles, pourraient simplement dire bah non, nous, on décide que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit de faire ce rachat. Et donc, évidemment, si l'Union européenne ou même l'Angleterre dit non, bah, le rachat risque d'être compliqué à implémenter. Parce que Microsoft ne va pas racheter Activision Blizzard dans certains pays et pas d'autres, surtout des gros territoires comme cela. La Chine aussi est dans l'équation. Bref, c'est un peu le bordel. Mais ce qui est clair, c'est que la FTC semble dans une mauvaise posture pour vraiment ce cas précis, quoi. Donc, mon analyse reste valide. J'avais juste sous-estimé l'intention de la FTC d'envoyer un message à l'industrie tech, je crois. En tout cas, c'est ce que tout le monde semble penser. Donc, on verra ce que ça donne, quoi.
Oui, c'est ça. On verra si y aura un mea culpa en 2024, mais je suis assez raccord avec toi là-dessus.
Ouais. On me demande dans la chatroom de Twitch, justement, si Microsoft gagne, est-ce que ça ne va pas discréditer les actions de la FTC ? Oui et non. Ça veut dire qu'ils vont essayer de bloquer les trucs qu'ils trouvent trop, qui donnent trop de pouvoir, trop de puissance aux géants de la tech, même s'ils risquent de perdre. Je crois que c'est peut-être là que j'avais mal estimé l'intention de la FTC. Moi, ce que je pensais, c'est qu'ils, justement, politiquement, ils ne voulaient pas se planter. Mais d'une part, s'ils se plantent, bah, ça sera possiblement de 2024, donc c'est pas pour tout de suite. Les échéances politiques seront possiblement passées aussi, ou en tout cas, ils auront pu utiliser cette idée qu'ils se battent contre la toute-puissance des GAFAM politiquement, et ça compte évidemment, parce que c'est pas juste politicien, quoi. C'est une intention de policy, c'est-à-dire que c'est comment est-ce qu'on veut nous gérer la société américaine, donc c'est important, c'est les intentions, les actions politiques. Et puis, il y a comment dire, il y a d'autres actions qui rentrent en ligne de compte. Il y a la Cour suprême qui est en train d'étudier un cas qui pourrait donner à Microsoft la possibilité de faire adjudiquer le cas devant un juge fédéral plutôt qu'un juge de la FTC. Enfin, il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte, mais le signal reste fort, même s'ils perdent. Donc, je sais pas, on verra. Moi, je continue à penser que ça se fera du côté des États-Unis, que la FTC ne va pas pouvoir gagner, mais que Dieu sait ce qui va passer du côté de la CMA, surtout en Angleterre. Et ça...
Ça, on ne saura pas en plus avant l'année prochaine, quoi.
Ouais, c'est ça. Les échéances sont... y en a une en janvier, une en avril pour les différentes instances. Enfin, clairement, je pense que ce n'est pas ce qu'imaginait Phil Spencer quand il a lancé le rachat. Il doit être en train de se...
Non, c'est sûr. Oui, d'ailleurs, il râle dans ses communications officielles. Il râle vachement.
Ouais, il a commencé à dire non, mais Sony... qu'est-ce qu'il a dit exactement ?
Il a dit en gros que Sony essayait de maintenir sa domination en faisant en sorte que Xbox puisse pas prendre plus de terrain, quoi.
C'est ça. Et clairement, c'est totalement le cas, quoi. Mais bon, c'est marrant d'ailleurs parce que j'ai eu beaucoup de gens, quelques personnes qui me disent « Oh, tu te moques de Sony, tu es hyper biaisé », genre comme si on était en train d'insulter leur mère, quoi. Et c'est vrai que je me suis moqué de Sony parce qu'ils venaient faire la pleureuse pour protéger leur dominance totale sur le marché dont on parle, enfin leur dominance par rapport à Xbox. Mais je me suis aussi complètement moqué de Xbox qui faisait genre « Oh, mais regardez, en fait, ça sera bon, notre rachat, c'est pas pour nous. C'est pour vous rendre service. On est là pour les joueurs, pour l'industrie, pour les développeurs. Nous, en fait, ça nous emmerde limite de racheter Activision, mais on est tellement gentils qu'on va le faire quand même. Enfin, tout le monde est dans son rôle dans cette histoire et je me demande vraiment les gens qui vont dire ah mais Patrick tu te moques plus même Nintendo je dis ici flotte dans le coin en faisant genre personne nous voit, nous on veut pas être impliqué dans l'affaire. Enfin, il faut vraiment être comment dire, pour être attaché à l'une de ces marques au point de dire « Oh ben non, tu te moques de Sony, c'est pas gentil !» Vraiment, remettez en question la manière dont vous défendez une société dont le but n'est pas du tout d'être votre ami, quoi. Moi, j'adore toute cette industrie, j'adore toutes ces sociétés, j'adore toute leur production. Mais à un moment, il faut un petit peu de recul. Si je dis Sony fait la pleureuse, parce que c'est ce qu'ils font, on fait la pleureuse en disant « Oh, mais sans Call of Duty, tout va s'effondrer, on va pas pouvoir vivre !» Je pense pas qu'il y ait là une insulte, une attaque à votre identité, ni même à l'identité de Sony. C'est ce qu'ils font, c'est leur rôle. Et c'est évident qu'ils vont essayer de défendre leur dominance. Le problème, c'est pas que Sony dise ça. C'est pas du tout ça le problème. C'est même pas le problème que Microsoft dise « Nous, on fait ça pour être super gentils ». Le problème pour moi, c'est que la situation, en particulier l'action de la FTC, est motivée par des motivations qui n'ont rien à voir avec la situation anticoncurrentielle dans l'industrie du jeu vidéo. C'est autre chose. C'est là qu'il est. Et le fait que la FTC écoute Sony parce que ça l'arrange, ou que le CMA ne voit pas à travers la démarche de Sony parce que ça les arrange peut-être, c'est là qu'il y a un problème. Voilà, c'est pas la fin du monde, mais tout le monde va survivre dans cette histoire. Si Microsoft ne rachète pas Activision Blizzard, je vous rassure, Activision Blizzard va survivre, Microsoft va survivre, Sony va survivre, il n'y aura aucun souci. Le seul souci, c'est que Kotick risque de rester en place. Mais ça, c'est une autre histoire.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, aussi abordé dans l'article de Kassim.
C'est tout pour la FTC ? Je pense qu'on a...
Ouais, de manière générale, je pense qu'on sera amené à en reparler, c'est sûr.
Forcément.
Mais là, effectivement, on n'a pas encore assez d'informations.
Donc, en gros, ce qu'il faut retenir de toute cette histoire, OK, je me suis un peu planté dans mes prévisions. Une fois, ça peut arriver, c'est très, très rare. Hein. D'ailleurs, vous le constatez, j'admets rarement m'être trompé parce que je me trompe rarement. Mais quand même, l'analyse, elle était bonne, donc je ne me suis pas vraiment trompé au final. Au final, c'est ça qu'il faut te dire. Bon.
Et que la moralité, c'est que les grosses sociétés ne sont pas nécessairement nos amis, effectivement.
Exactement.
Et qu'on peut être voilà. Dans notre manière de se moquer d'elles.
Voilà. Et puis, même si on aime beaucoup ce qu'ils font, hein, c'est l'un n'empêche.
Oui, bah oui. Mais...
Les Game Awards. Qu'est-ce qui s'est passé aux Game Awards ? Alors, c'est la grande cérémonie, encore plus cette fois-ci que les années précédentes, j'ai trouvé. D'abord, peut-être que je vais te demander, qu'est-ce que tu penses, toi, de la Killy Fest ? Dis-moi, est-ce que tu aimes, t'aimes pas ? Parce qu'il y a des gens qui sont très critiques, genre, ah, c'est artificiel, on s'en fout de ce qu'ils pensent, Killy, et puis il n'y a même pas tellement d'awards, c'est juste un outil marketing, machin. Qu'est-ce que t'en penses ?
Je me situe plutôt de ce côté-là, moi j'avoue, j'ai un regard un peu cynique sur les Game Awards portés par Doritos Man, comme on l'appelle dans le milieu. C'est vraiment quelque chose que je regarde effectivement pour me tenir au courant des futures sorties à venir, mais j'avoue que tout le côté grand-messe, moi, a plutôt tendance à m'irriter. Mais bon, effectivement, cette mécanique bien huilée a été un peu mise à mal au cours de cette cérémonie. Après, pour tout l'aspect Oscar du jeu vidéo, enfin pareil, enfin tu vois, il y a jamais de grandes surprises dans les nominations ni dans les victoires. Ça s'est confirmé cette année, quoi. Pas de grosses surprises en termes de lauréats.
Alors, je vais en un instant complètement invalider ton argumentaire. Tu te souviens qui a gagné le jeu de l'année dernière ?
Oui, c'était It Takes. C'est vrai. C'est vrai.
Alors, tu vois ? Hein ? Moi, ce que j'ai envie de dire aux gens qui sont comme ça ronchons et qui genre oh, c'est que bah, de toute façon on s'en fout, j'ai envie de dire mais j'ai un peu envie de dire mais qu'est-ce que ça peut vous foutre ? C'est un moment où l'industrie, non, je comprends la critique de l'aspect marketing, mais je ne suis pas sûr que ça soit un problème quand on a une occasion pour toute l'industrie, un petit peu comme à l'E3, toute l'industrie d'être juste contente d'être l'industrie. Et Dieu sait que dans cette émission et ailleurs, on parle des problèmes de l'industrie et on pourra peut-être même en reparler dans cet épisode. Mais de temps en temps, c'est bien d'être content, quoi. De faire la fête et de se dire « Ok, on a passé une année cool, c'était sympa, on a vu plein de trucs qui nous ont fait plaisir. » Et juste une fois, une soirée, être tous ensemble autour de Twitter ou de votre Discord préféré et de regarder ce qui s'y passe et de dire « Oh, ça, c'est sympa, regarde ce trailer, regarde cet award qui est passé en deux secondes. »
Est-ce que tu ne trouves pas que parfois la ronchonnerie peut être tout autant fédératrice qu'on peut aussi...
Oui, mais c'est bien ce qui me dérange. Non, mais si tu veux, la ronchonnerie, je pense qu'elle est nécessaire et qu'elle est déjà là et qu'elle est là tout le temps. Et que c'est important parce que Dieu sait que dans cette émission, entre autres, on parle des problèmes de l'industrie et des choses sympas aussi. Mais je veux dire, il y a un moment, on a, c'est pas si grave si une, deux, trois, allez, quatre soirées dans l'année, on se retrouve tous et on se dit, quand même, on est content d'aimer le jeu vidéo, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a des gens, quand tu dis on est content d'aimer le jeu vidéo, il y a quand même des trucs cool, ils vont te pointer du doigt et dire, mais attends, t'as pensé au crunch ? T'as pensé au sexisme ? T'as pensé au... Ah, mais attends, tu vois comme c'est du marketing ? Et regarde Doritos Man, hein, Doritos Man, tu te souviens de ce qu'il a fait au Doritos Gate ? C'est genre, oui, on sait, on en parle tout le temps. Il y a peut-être des gens qui
en parlent
pas.
Mais je pense que c'est bien de... effectif ce type d'événement. Après, je suis d'accord avec toi sur le côté... comme le... voilà, vous, ça, annuel.
Ça coûte beaucoup.
Où tu sais que tu peux te réjouir, mais je pense que voilà, c'est bien aussi, toute proportion gardée, de garder les mêmes critiques sur bah, les côtés.
Ça coupe beaucoup, décidément, avec mon... Je ne sais pas ce qui se passe avec mon ordinateur ici. C'était la même chose au rendez-vous tech. Bon. Mais bon, on comprend. T'as disparu, Julie ? Elle a disparu. Elle va revenir. Je suis sûr qu'elle va revenir. C'est l'informatique, c'est vraiment pas pratique. Bon, ok, on a compris. On va continuer, du coup, avec nos impressions sur cet événement lui-même. Et peut-être la qualité ou l'absence de qualité du truc. Julie, t'es là ?
Je suis connectée, mais j'ai l'impression que tu m'entends pas.
T'es là, t'es revenue.
Ah, ok, d'accord.
C'est bizarre, c'est la même chose là, cette semaine, quand je parlais. Enfin, Cédric ne m'entendait pas quand... Je n'entendais pas quand il parlait. Bref.
Ça, c'est l'audio-censure de Doritos Man.
Exactement.
Assurément.
Exactement.
Mais bon, ce que je disais, c'est qu'il n'empêche que tu m'entendras m'enthousiasmer de différentes annonces qui ont été faites, c'est sûr.
Eh bien, alors, qu'as-tu pensé de l'ouverture avec Al Pacino qui vient donner l'award de la meilleure performance? Inattendu, hein, Al Pacino, quand même. C'était sympa, c'était artificiel, t'as pensé quoi?
Bah, écoute, ça sortait un peu de nulle part, moi, je trouve, je m'attendais...
Décidément. Tu as encore disparu, Julie, je sais pas ce qui se passe... C'est vraiment... J'ai un problème avec ma machine. Hein. Ça vient de chez moi, pas de chez toi.
Ah, ok, pardon, d'accord. Donc,
Al Pacino
Tu m'entends, là?
Oui, oui.
Ah oui, ok. Non, je disais juste que ça, pour moi, ça sortait complètement de nulle part, mais que le plaisir de voir Al Pacino a réussi à compenser ma déception de ne pas voir Manon Gage remporter ce prix. Mais oui, c'était, bon, tu vois, c'était un petit moment touchant et mignon, quoi, de voir effectivement... Il y a quand même toujours ce côté un peu gênant quand on met un acteur qui n'est pas forcément hyper actif dans l'industrie. Enfin, là, c'est le cas de Pacino, qui lui-même faisait des blagues sur le fait qu'il n'arrivait pas à lire le prompteur, absolument pas aux jeux vidéo, mais qui se contentait de regarder ses gosses y jouer. Et quand même avoir cette espèce de reconnaissance d'un acteur légendaire, comme c'est le cas de Pacino, pour Christopher Judge, c'était effectivement très touchant, quoi.
On est d'accord.
Tout cynisme n'y a pas, vraiment.
Ouais, moi je suis d'accord, c'était quand même assez touchant. Et puis la reconnaissance d'un des pères du métier de comment dire, d'acteur, ça veut dire quelque chose quand on est, même quand on est dans le jeu vidéo. Et puis Christopher Judge qui parle pendant quoi? Il a parlé pendant à peu près 45 minutes pour remercier à peu près tout le monde et puis il s'arrêtait pas, c'était assez drôle.
Ouais, c'était
mignon. Ils ont fini quand même, je me disais, mais ils le laissent parler hyper longtemps, ils ont fini par mettre la musique pour le faire sortir, parce que vraiment, il a parlé peut-être 10 minutes, quoi. C'était impressionnant. Donc ça, c'était la première surprise, on ne s'attendait pas à voir Al Pacino, c'était sympa. Et c'était à peu près... Il n'y avait pas beaucoup d'awards dans cette cérémonie d'awards, il y avait surtout des trailers, des annonces, et je ne suis même pas sûr qu'on ait besoin de parler tellement des awards eux-mêmes. On va vous spoiler, c'est Elden Ring qui a gagné le meilleur jeu. Donc voilà, ça c'est réglé, c'est terminé.
Sans grande surprise, effectivement.
Sans grande surprise, c'est sûr. C'était attendu, et puis voilà, il y avait des awards. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont même réduit encore la place des awards. Il y en avait beaucoup où c'était Jeff Keighley qui vient devant l'écran. Ils affichent les 5 nominés. Ils mettent le gagnant en surbrillance et c'est terminé, on passe à la suite. C'est clairement les Game Awards, c'est l'E3 de l'hiver et pas vraiment une cérémonie d'awards. Mais du coup, l'aspect E3 de l'hiver était vraiment réussi cette année parce qu'il y a eu plein d'annonces. Je crois que c'était le plus grand nombre de grosses annonces cette année. Et il y avait des trucs assez excitants, assez surprenants. J'ai une petite liste, moi, de mon côté. Julie, est-ce que tu peux nous dire les quelques annonces que tu as retenues, du coup, avant que moi, je me lance ?
Bah écoute, Street Fighter 6 et Tekken 8 déjà, c'est parce que ça faisait longtemps, on a déjà parlé de Tekken 8 pendant un petit temps, mais c'est vrai que deux franchises qui n'avaient pas émis de nouvel épisode depuis un certain moment, pour le cas de Street Fighter, ça faisait vraiment depuis 2016, ouais, le cinquième. Tekken 7, c'était 2015. Enfin, moi, je suis contente de voir deux grosses franchises de baston reprendre du service comme ça. Et qui plus est, en plus, avec des images qui m'ont plutôt excité, même si je dois avouer, bah, on en a parlé un petit peu en début, un petit peu tous les deux, mais Tekken 8, c'est vrai qu'on avait eu un premier trailer sans savoir si c'était des images de gameplay ou non. Là, on a eu des images qui ressemblent à des images de gameplay, et effectivement, c'est beaucoup moins cinématographique et chiadé que ce qu'on avait pu voir. Mais il y a quand même des raisons de se réjouir de ce Tekken 8. Enfin, y compris le fait qu'on retrouve le personnage de Jun Kazama qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, en fait, depuis les Tekken Tag. Moi, je suis ultra contente, vraiment. Alors, ça n'aura aucun sens scénaristiquement parlant, mais...
Ils sont plus à ça près. C'est Arada. Alors, pour Street, on a eu la confirmation de la date de sortie, le 2 juin, et le mois de juin commence à être hyper chargé, là. Je vais essayer de ressortir... les dates, il y a Game Informer qui fait une liste des...
Ah oui, le 2 juin 2023 pour Street Fighter, tu disais.
Le 2 juin 2023 pour Street Fighter, mais il y a en juin une série de sorties, Diablo 4 le 6 juin, oui. Final Fantasy le 22, et Tears of the Kingdom le 12 mai, Suicide Squad Kill the Justice League le 26 mai. Donc mai-juin, ça va être très chaud. Il y a d'autres choses dont on parlera aussi plus tard. Donc la date de sortie pour Street... Tekken, il n'y a pas du tout de date de sortie. Quelques images de gameplay, effectivement. Le trailer était un peu... je l'ai trouvé... Comment dire ? Il n'y a rien, quoi, en fait. Ils nous montrent un petit peu de gameplay, mais...
Ce
qui m'a impressionné, c'est peut-être, au niveau graphique, les veines de l'eau... Qui, tu sais, les veines sur ses muscles de l'eau, tu sens qu'il y a une étape niveau graphique, mais ça reste un jeu de combat pas très réaliste, très stylisé, qui a donc plus d'explosions partout et plus d'effets visuels. Bon, c'est un nouvel épisode de Tekken, moi je l'attends beaucoup, mais j'ai pas l'impression que ça soit très impressionnant au niveau graphique. Et comme il nous montre des graphismes, mais on ne sait pas grand-chose sur les changements dans le gameplay ou quoi que ce soit. Bon, du coup, on n'en apprenait pas beaucoup, quoi.
Oui, c'est ça. On a des informations sur, quand même, via Namco, sur des éléments de gameplay qui veulent des nouveaux éléments de gameplay. Un hit system qui permet de déclencher des attaques agressives. Enfin, bref, mais ça, c'est des choses, finalement, qui ne sont pas hyper... visible dans le trailer, quoi. C'est vrai que dans le trailer, c'est vraiment juste le plaisir nostalgique de retrouver des personnages qu'on aime. La gêne de voir un perso comme Devol à la peau violette en version next-gen, ça fait toujours bizarre. Autant je trouve que ça marchait très bien sur les vieilles plateformes. Enfin, moi, je voyais pas trop d'opposition. Là, ça détonne un peu, je trouve. Je sais pas ce que t'en as pensé.
Ça fait un peu bizarre, clairement. Et puis, mais bon, encore une fois, c'est Tekken, quoi. Le n'importe quoi.
Oui, voilà, on saura une fois manette en main, et c'est le gameplay qui parlera plus que l'histoire, parce que là, c'est vraiment un trailer très histoire, quoi.
Donc ça, c'était pour les deux jeux de combat. Il y a eu d'autres annonces. Hein. Ça, c'est des trucs qui nous parlent à nous, mais peut-être moins à d'autres. Allez, on va passer rapidement sur les annonces. Donc Street et Tekken, évidemment, mais aussi un nouveau trailer pour Final Fantasy XVI, avec sa date de sortie le 22 juin. La confirmation de Star Wars Jedi Survivor, avec une date le 17 mars. Et un trailer... le truc important, je crois que j'en parlais déjà la semaine dernière... Cal Kestis n'a plus son poncho. Donc, c'est bon, le jeu sera meilleur que le premier, qui était déjà pas mal. deux autres trucs, plein d'autres trucs dans la catégorie indies, des grosses surprises. D'une part, Hades, Supergiant qui annonce Hades 2. Ils avaient... jamais fait une suite. Alors, je pense que eux, ils se sont réveillés avec le traditionnel. Mais on aime l'argent, vous voyez, parce qu'ils ont jamais fait une suite, mais leur jeu avait pas ultra bien marché non plus. Là, Hades, il avait tout massacré encore en 2019. Donc ils se sont dit bon, attends, on va peut-être en faire un deuxième. Nouvelle, le héros change. C'est une héroïne dont on a le nom quelque part, mais je m'en souviens plus. Il n'était pas dans le trailer. ça a l'air d'être très proche de Hades 1, même si c'est relativement court, les parties gameplay, mais ça a l'air d'être plus de Hades 1, ce qui est bah, très bien, hein, pourquoi pas. Et elle va s'attaquer à Chronos, le titan du temps. Donc on verra ce que ça donne, mais le gameplay, ça a l'air très proche, et moi, ça me convient. Il y a aussi le nouveau jeu de Extremely OK Games, ex-OK Games, comme ils se sont renommés, Earthblade, qui est un petit peu céleste avec des attaques, j'ai l'impression.
Avec du combat, mais oui. Ah, mais ça, c'est une des annonces qui m'a le plus réjoui, parce que j'avais vraiment adoré Céleste. Enfin, c'est vraiment le jeu.
Entre parenthèses, le fait d'adorer Céleste, ça coupe encore tout le temps. Je suis désolé, hein, mais on essaye de faire du mieux qu'on peut. J'ai vraiment un souci là avec ma connexion. Je pensais l'avoir réglé. Qu'est-ce que je voulais dire ? Les gens qui participent à cette émission, en fait, je leur fais passer un questionnaire. S'ils n'ont pas aimé Céleste, ils viennent pas dans l'émission. Donc voilà, ça règle le problème. Donc évidemment, tu as aimé Céleste.
C'était vraiment une merveille Céleste. Et je suis très très contente justement de voir qu'ils font un nouveau jeu, un peu bah, dans le même esprit, avec un style pixel art qui appelle directement Céleste. Enfin, j'espère en tout cas qu'il y aura le même soin apporté, la même finesse de gameplay qu'avec Céleste, mais ça s'annonce plutôt, plutôt pas mal au vu du trailer, quoi. Je sais juste pas, enfin c'était déjà excessivement stressant quand le jeu se limitait à la plateforme. Avec les combats, je pense que je vais perdre encore un peu plus d'espérance de vie, mais j'ai trouvé ça vraiment ultra enthousiasmant.
Ouais, ils n'ont pas beaucoup appuyé sur le platforming très difficile dans le trailer, mais bon, qui sait, ça arrivera en 2024. Et puis une autre annonce du côté des indés à succès, c'est une annonce qui est arrivée entre parenthèses, je dis ça arrivera en 2024. On n'a pas plus de détails que ça. Pour Hades, ils n'ont pas précisé non plus, mais ils disaient que ça allait arriver avec un early access comme le premier. Donc on peut imaginer un moment 2023, quoi. Et donc l'autre annonce des indés à succès, c'est Dead Cells qui n'en finit pas de faire des DLC, parfois gratuits, parfois payants. Là, on n'a pas du tout vu de gameplay, mais bon sang, je peux vous dire que je vais relancer Dead Cells puisqu'il le prochain DLC s'appelle Return to Castlevania. Incroyable.
Donc
Dead Cells, mais c'est dingue. On voit donc Alucard et le Belmont un des Belmont et Dracula. C'est vraiment le personnage de Dead Cells qui va dans le château de Castlevania, le château de Dracula, avec les personnages de Castlevania, les ennemis de Castlevania. Ouais, toi t'étais choqué aussi.
Ah oui, c'était pour moi complètement inattendu. Après, je suis ultra contente. Enfin, vraiment, j'ai hâte de toucher à ce DLC, mais ça donne un peu envie aussi d'avoir un vrai retour de Castlevania, quoi.
Oui, bon, ça c'est...
Mais on peut pas tout avoir, c'est déjà vachement bien.
Déjà, on peut être content que Konami ait donné l'autorisation d'utiliser la licence à Motion Twin.
Oui, c'est clair. Ouais, c'est clair. Ah, mais il y a un petit relâchement de la part de Konami, déjà rien qu'avec leur volonté de vouloir relancer complètement Silent Hill et de céder leur licence, ouais, c'est plutôt chouette.
Quoi d'autre ? Bon, moi, je pourrais vous parler du trailer de Destiny 2 de Lightfall qui m'a, avec un beat incroyable. À un moment, ça, je vais pas vous le passer parce que je veux pas faire démonétiser les vidéos, enfin me faire striker surtout. Mais bon, moi, ça me parle énormément et ça a l'air hyper cool. Enfin, le trailer est hyper cool. Un extrait de Super Mario, le film, où on entend enfin vraiment la voix de Chris Pratt, qui fait Mario. Il n'a pas l'air de parler beaucoup, donc c'est quelques exclamations ici et là.
Oui, c'est terrible, c'est vraiment analysé, j'ai l'impression, par les sites spécialisés, chacune de ses répliques. Il est vraiment attendu au tournant, quoi. Parce que c'est vrai qu'avait été pointé un peu la différence de ton entre les différents doubleurs. Là où il y a des côtés beaucoup plus cartoonesques dans d'autres pays, la voix de Chris Pratt, ouais, bah, on va voir. Mais en tout cas, je trouve que l'animation a l'air absolument sublime quand tu regardes ce trailer.
Je trouve que la scène sent très bon quand même, parce qu'ils réussissent à avoir vraiment l'univers de Mario, des jeux Mario, mais complètement l'univers des jeux Mario, mais avec des trucs qui sont plus ou moins cohérents dans ce qui a l'air de se passer dans le film, quoi. C'est un petit peu fan service, un petit peu en même temps, c'est marrant dans le film. Enfin, j'ai l'impression que c'est bien géré et que la licence est bien gérée. Donc, on va voir ce que ça donne. Il y a du platforming dans le jeu, dans le film. Il y a du Mario Kart, il y a du Smash Bros. Enfin, il y a tout, quoi. Tout fonctionne. J'ai très, très hâte de le voir. Je sais pas si mon fils sera assez grand pour le voir avec nous, j'espère, mais on verra. Donc on continuera à attendre. Il arrive bientôt en plus. C'est quand qu'il sort?
Oui, je sais plus quand il est prévu.
En avril 2023.
Notre dernière sortie avant. Ce sera notre dernière sortie avant qu'on enchaîne toutes les sorties de mai-juin.
Exactement. Mais il y a plein d'autres choses. Là, on a parlé des trucs qui nous ont particulièrement parlé. Il y a aussi Death Stranding 2 qui a été confirmé.
Je m'en veux d'ailleurs de ne pas avoir commencé là-dessus, en fait, parce que vraiment... J'avais vraiment adoré le premier. Je sais que c'est une proposition qui était vraiment très radicale et clivante. Enfin, j'ai l'impression que c'est un jeu qui laisse rarement indifférent. Soit on l'adore, soit on le déteste. Moi, j'étais clairement parmi les gens qui l'ont adoré. Qui est vraiment, j'ai un souvenir ultra ému de toutes mes randonnées passées sur le premier. Mais après, voilà, on savait déjà qu'il y avait un deuxième épisode dans les tuyaux. Enfin, on avait notamment parlé dans une interview. Mais moi, ce que j'attendais surtout, c'était de savoir si on allait avoir plus d'informations sur un autre projet. Enfin, c'est encore un stade de rumeur à base de leak, mais un autre projet d'Hideo Kojima qui est un jeu d'horreur et qui, moi, me donne vraiment très, très envie. C'est, pour l'instant, on avait vu que des images vraiment un leak où on voyait le perso incarné par Margaret Qualley qui joue notamment Mama dans Death Stranding. Bon, on n'a eu aucune information sur ce jeu qu'on suit en ce moment, mais déjà avoir des nouvelles de Death Stranding 2, ça m'enthousiasme moi personnellement. Surtout que j'ai l'impression qu'il prend un tournant horreur que j'aime bien.
Carrément, oui. Là, c'est carrément, enfin, c'est angoisse, horreur, ça a l'air encore plus stressant que dans le premier. Et on est quelques années après, ouais.
Ouais, bah, ce qui était intéressant, justement, c'est de voir un peu, donc Kojima, qui n'avait pas pu faire son Silent Hills, qui avait été annulé par Konami, avait quand même mis des éléments horrifiques qu'on pouvait imaginer, on peut imaginer au moment de faire Silent Hills et que dans ce Death Stranding, on retrouve un peu cette part horrifique qui avait tout à fait sa place dans ce projet, quoi. Donc je suis vraiment très très curieuse, ouais, de voir ça. Toi, t'avais pensé quoi du premier par curiosité?
T'étais dans
la team des gens qui détestent?
Non, j'étais dans la team rare des gens qui sont, indifférents. J'ai pas détesté, j'ai pas adoré.
T'avais même pas que cette portion existait. Ouais, je vois.
Tu vois, ouais, c'était juste ok, bon, ben c'est un jeu. J'ai pas accroché, clairement, et j'approuve, j'admire l'audace de faire un jeu comme ça, mais je suis pas très client de Kojima, en fait. C'est mystère débile, ça me parle pas,
ça par contre, ça c'est sûr qu'il continue dans sa communication à parler en énigme, c'est terrible, quoi.
C'est ça, ouais.
C'est vraiment, bon, bah débrouillez-vous, vous allez décrypter ce qui se passe dans les trailers, et effectivement, à chaque fois qu'il y a un trailer qui tombe, tout le monde met son chapeau en aluminium sur la tête, quoi. C'est vraiment...
C'est ça,
j'ai analysé sur tel frame...
les trailers... Enfin, comment dire, il y a une imagerie qui m'intrigue, tu vois, je me dis, ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Quel monde y construit? Mais j'ai l'impression qu'il répond pas vraiment à ces questions dans ces jeux. Pour être honnête, ça fait longtemps que j'en ai pas fait jusqu'au bout, donc peut-être que les réponses arrivent au bout d'un moment, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est toujours un petit peu... regarde ce mystère, c'est un petit peu lost, quoi. C'est, tu poses des mystères et après tu réponds pas vraiment. Je suis sûr que les fans vont me contredire et qu'il y a un lore complètement fou sur Metal Gear avec Big Boss qui était en fait machin et qui est revenu et qui, ok, très bien, mais je sais pas. Mais là, tu vois, le trailer de DS2, par exemple, vu ce que je sais de DS1, bah, ça m'intrigue. Le bébé, ça m'intrigue même pour la fin de DS1. C'est juste que j'ai pas envie de me taper tout le truc et tous les... Disons que Kojima s'aime tellement lui-même, je trouve qu'il fait... C'est exactement un auteur qui bénéficierait d'avoir un éditeur, au sens littéraire du terme, qui le bride un petit peu, quoi. Qu'à un moment, il lui dise, attends, ça, là, tu en fais un peu trop. On sait que c'est un jeu de Hideo Kojima, par Hideo Kojima, monté par
Hideo
Kojima.
Ah oui, non, mais ça... Okay.
Mais à un moment, il faut que ton truc soit un peu plus resserré. Et s'il faisait ça, ça serait plus du Hideo Kojima, et je suis sûr que ça plairait pas aux fans. C'est juste que pour moi, c'est pas un style qui me parle à moi, quoi.
Donc, ah oui, ça, voilà, je comprends tout à fait.
Je serais content que les fans en aient plus, hein, et heureusement que Kojima... J'irais même jusqu'à dire que, autant j'aime pas la diva, autant je suis très content qu'il ait réussi sa transition hors de Konami, parce que c'était pas garanti du tout, hein, qu'il réussisse à faire son trou hors de Konami. Je suis très content qu'il ait réussi avec son studio, quoi.
Ouais, non, moi je me réjouis toujours de voir des triple A qui ressemblent, qui ressemblent pas aux autres triple A, quoi. Ça, c'est vraiment le truc dont je me réjouis, mais je suis complètement d'accord, évidemment, sur le côté diva. Le côté cinéphile frustré, hein, bien sûr, qui lui est souvent reproché. Et puis, effectivement, ce côté un peu imbu de lui-même. J'ai beaucoup rire, je crois que c'était dans un article de Polygon qui parlait de l'annonce de Death Stranding 2. Où justement, on lui demande ce que la pandémie de Covid a changé, par exemple, votre manière d'aborder l'histoire de DS2, sachant que vous l'avez écrit avant. Oui, je l'ai réécrit à nouveau parce que je veux plus continuer à prédire le futur. Et ça c'est quand même fort.
Je suis sûr qu'il le dit avec humour, tu vois. Autant, je pense que j'ai une meilleure image de Kojima aujourd'hui qu'à l'époque de Konami. Parce que moi, je me demandais si, je disais réussir sa transition, je me demandais si son aspect diva, artiste maudit, machin, lui permettrait de sortir un jeu de son studio. S'il allait pas, justement, partir trop dans ses délires. Et au final, il a sorti un jeu assez vite. Après son départ, donc il a su gérer ses ambitions, justement, et il a sorti un jeu ambitieux, mais hyper original, qui correspond à ce que lui a toujours voulu faire. Enfin, il est indéniable qu'il a réussi son coup avec une certaine mesure d'humilité, tu vois. Il s'est pas dit oui, de partir dans des trucs. Donc, bon, j'ai quand même, j'irais plus de respect pour lui que, en fait, c'était l'histoire de Silent qui m'était vraiment resté en travers de la gorge. Parce que le coup de, ah ouais, c'est une snipeuse, mais elle est en bikini parce qu'elle respire par la peau, j'avais trouvé.
Ah oui, non, mais ça, mais bien sûr.
C'est plus que trollesque, quoi. Et il y avait énormément de choses comme ça. Il était un petit peu dans ce personnage. Je me fous de la gueule de tout le monde et de mes fans et de tout le monde. Et je trouve qu'en fait, c'était peut-être un miroir déformant, ou peut-être qu'il était vraiment comme ça et qu'il a un petit peu changé avec son studio. Je trouve que là, il est, bon, c'est juste qu'il fait du Kojima, quoi. Bref. Bon. c'est pas mon truc, mais je suis très content pour les gens dont c'est le truc. DLC pour Horizon Forbidden West, où on va à Los Angeles, avec un trailer assez beau. Il faut que je me remette à Horizon et je le finirai un moment, peut-être l'été prochain, quand j'aurai un petit peu de temps. On verra un jour. Quoi d'autre? Crash Bandicoot, on parlait du retour de Crash Bandicoot. Alors, je sais pas ce que c'est ce jeu Crash Bandicoot. C'est un peu bizarre, c'est Crash Bandicoot Team Rumble.
Et un jeu multijoueur à 4, ouais.
Ouais, 4 contre 4, c'est quoi? C'est pas un MOBA, mais c'est un jeu genre combat, genre... je sais pas, très
c'est
bien.
Très bizarre, ouais. Moi, ça m'a fait penser à... Enfin, moi, en tout cas, quand j'étais petite, j'adorais Crash Bash, qui est sorti en 2000, qui était un peu le jeu multijoueur en parallèle de Crash Team Racing et des Crash Bandicoot. Et c'était vraiment un party game où tu passais ton temps à te mettre sur la gueule, en gros. Ouais. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, juste... un fruit à un moment donné pour remporter la victoire. C'est ce que j'ai compris du trailer jusqu'ici. Mais écoute, ouais, vraiment, moi, j'avais adoré, j'adorais Crash Bash à l'époque et je suis toujours demandeuse de party game un peu léger comme ça. J'ai forcément un petit attachement à la franchise parce que j'ai grandi avec. Et je trouve qu'en plus, ils avaient bien réussi leur retour, notamment avec le nouveau Crash Team Racing Nitro Fueled, que j'avais trouvé vraiment super chouette.
Et puis le 4, enfin Crash Bandicoot 4, c'est quoi, It's About Time, le sous-titre. Donc il y avait beaucoup de fans qui espéraient revoir Crash, et bah, il est de retour. C'était une bonne nouvelle parce qu'on craignait que Toys for Bob n'ait été dépossédé de la série, et finalement c'est pas le cas. Donc bon, un bon point pour Activision Blizzard dans un océan. Enfin, on sait pas, on va voir ce que donne le jeu ensuite. Le trailer du DLC de Cyberpunk 2077 qui met en scène Idris Elba. Intéressant vraiment le parcours de Cyberpunk, hein, qui reconnaît un succès renouvelé après la série Netflix. Et puis Idris Elba qui est dans le trailer, ça a l'air sympa. À voir ce qu'il donnera, le DLC. Quoi d'autre ? Ce jeu complètement improbable. Est-ce que tu as vu ça ? Je ne sais pas si tu l'as retenu. Moi, j'ai retenu, mais je suis peut-être le seul. Crime Boss Rocket City.
Oh là là. Est-ce que tu vois que je parle ? Est-ce que tu m'entends déjà ? Je ne suis pas
sûre. Oui, maintenant je t'entends.
Ah, tu m'entends. Ok, c'est bon. Ben justement, je n'avais pas du tout repéré. C'est toi qui me l'as fait remarquer, mais c'est complètement truc. Enfin, ça ressemble à un jeu d'action, un peu à la GTA. Enfin, je sais pas, ça rappelle GTA Vice City forcément quand tu regardes les images. Mais c'est le casting qui est complètement dément et qui moi m'inspire peu confiance parce que je me dis ils ont mis beaucoup trop dans le casting. Enfin, je sais pas si au détriment du reste du jeu, peut-être pas, mais c'est vraiment un casting all-star.
Alors, All-Star, des années 90 quand même. Hein.
Ouais, mais tu vois, des gens que les gens adorent, quoi. Enfin, moi en tout cas, je les adore. Bon, okay. Vanilla Ice, alors, ok, je m'attendais pas.
Bah,
mais
ça,
Chuck Norris, tu vois, forcément, ça crée l'événement, quoi.
Ouais, mais à un moment, Chuck Norris, on l'a trop sorti du placard, tu vois. Enfin, il y a Michael Madsen, dont vous vous souvenez peut-être, qui a l'air d'avoir très mal vieilli quand il est venu présenter son truc au Game Awards. Kim Basinger,
Danny Glover,
Trejo, Vanilla Ice et Chuck Norris. Et tu sens qu'ils mettent un petit peu des images des personnages avec des animations très très limitées parce que tu sens bien qu'ils n'ont pas énormément de sous pour les animations. Pourquoi pas ? Ça se trouve, le jeu sera très bien. Mais...
Oui, mais c'est vrai qu'on peut, émettre quelques doutes. Enfin, c'est vrai que moi, j'ai l'impression d'avoir rien vu dans ce trailer. Si ce n'est regarder toutes ces stars qu'on a du placard, comme tu le disais. Enfin, ouais. C'est vrai que t'as l'impression qu'ils ont pris genre un petit chapeau avec plein de petits papiers avec des noms de stars. Parce que ça paraît un peu aléatoire, je trouve. Enfin, même cette association, quoi, Danny Trejo et Danny Glover. Enfin, je vais regarder ça, je vais suivre ça, honnêtement, mais j'ai peu d'espoir.
Ouais. C'était juste le what the fuck du truc. Banishers Ghost of New Eden de Dontnod, qui a l'air vraiment assez intéressant, je trouve, qui est donc le nouveau jeu de Dontnod. Je vous recommanderais d'aller voir le trailer, c'est assez difficile à décrire, et je veux pas trop en parler parce qu'il y a un truc dans le trailer qui est intéressant, mais c'est un monde genre qui a l'air médiéval fantastique, et c'est surtout l'ambiance qui est posée, qui a l'air de fonctionner, et je suis curieux, on sait même pas si ça sera un jeu d'action, un jeu narratif, hein, Dontnod, ils ont surtout fait du narratif, hein. Ça a l'air entre médiéval fantastique et viking, et exploration de la mythologie, mais du monde des fantômes, et enfin je sais pas. Je suis très curieux de voir ce que ça donnera. Ghosts of New Eden.
Eux le présentent quand même comme un action RPG, mais c'est vrai qu'ils mettent aussi énormément l'accent sur le scénario, les décisions qui ont des grosses conséquences. Enfin, on retrouve un peu de l'esprit d'Antonin là-dedans, mais je trouve une direction très différente de ce qu'on avait pu voir en fait depuis Life is Strange, quoi. J'avais l'impression, avec Twin Mirror ou tel... qu'il y avait quand même toujours cette patte d'Antonin. Là, on sent qu'ils s'orientent vers quelque chose de nouveau, peut-être plus ambitieux, et vraiment, j'ai hâte de voir.
Ouais, pareil. L'ambiance, ça fait presque ambiance Diablo, genre très sombre, très... Donc oui, c'est clairement pas la même chose. Et puis, alors il y a une démo Forspoken dont je parlerai dans la partie nos jeux du moment, qui est disponible, et vous pouvez aller la tester. Puis il y a tout... Là, on a parlé déjà pendant une demi-heure des trailers qui nous ont marqués. il y en a toute une tripotée en plus que je vais pas mentionner. Donc je suis désolé si votre jeu de choix n'est pas dans ma sélection, mais il y en a tout un tas. Si toi tu veux en mentionner un ou deux autres, n'hésite pas. On a dit Suicide Squad, mais on n'en voit pas grand chose. Ouais.
Oh non non, t'inquiète, je pense que on tourne là déjà.
Ouais. Il y a un nouveau jeu Bayonetta, il y a un jeu qu'est-ce qu'il y avait d'autre, enfin bref, il y en a plein, plus d'images de Dune, le jeu de survie, plus d'images de Nightingale, plus de, il y a plein de choses. Mais ah oui, le nouveau jeu de Ken Levine quand même, Judas, qui a l'air de s'être dit bon, j'ai mis 15 ans à faire ce jeu, et si je faisais un truc qui ressemble vachement quand même à Bioshock que j'ai sorti il y a combien, 20 ans maintenant? Non, peut-être pas 15 ans. Ça a l'air quand même d'être Bioshock, on est d'accord, non?
Oui, oui, oui. Mais c'est peut-être une bonne chose, on va voir.
Possiblement. Bioshock en plus beau. Donc voilà pour les grosses news à retenir et ces Game Awards. Moi j'ai passé un très bon moment en regardant ces Game Awards et j'ai été quand même assez enthousiasmé par tout ça. Avant de passer à nos jeux du moment, je vous rappelle que le meilleur moyen de soutenir cette émission, si vous voulez le faire, c'est d'aller sur patreon.com/rdvjeux pour devenir patriote. Et qu'est-ce que ça veut dire être patriote? Ça veut dire soutenir financièrement l'émission et avoir des petits bonus sympathiques. Vous pourrez avoir les time codes sur l'émission, l'émission sans pub également, des petits contenus bonus quand j'ai le temps d'en faire. et surtout la satisfaction de soutenir un créateur que vous appréciez. Un grand, grand merci à vous tous. patreon.com/rdvjeux.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et on passe à nos jeux du moment. Tu joues à Callisto Protocol, Julie?
Et oui, mais tu m'as fait une très belle transition, en fait, en parlant de ces créateurs de jeux qui refont des jeux qu'ils ont déjà faits des années plus tard, même si, bon, voilà, il y a quand même pas mal de différences. Je joue à The Callisto Protocol et c'est presque un plaisir coupable dans le sens où je suis assez mitigée sur le jeu. Glenn Schofield, donc, qui était directeur de Dead Space, rend avec Callisto Protocol qui ressemble à Dead Space avec un faux nez, mais qui a quand même énormément de différences en termes de gameplay. Et je dis plaisir mitigé dans le sens où, bon, j'avais adoré Dead Space, j'attends avec impatience le remake. Là, il faut avouer qu'on est dans un truc bien plus bourrin, avec un scénario, je trouve, plutôt inintéressant, mais et un bestiaire réduit, mais disons que les combats, enfin, ont un côté ultra addictif, je trouve, même si parfois foncièrement injuste. Ouais, vraiment ça, c'était ma grande surprise, c'est que le fait que les combats soient ultra nerveux, qui fait que, enfin, vraiment, ça faisait longtemps en fait que je m'étais pas sentie aussi tendue avec la manette dans les mains. Mais en même temps, je vois bien que même quand je meurs de manière atroce, parce que vraiment, faut le dire, les animations de mort sont absolument atroces, je peux pas m'empêcher de me dire mais je rempile immédiatement. Et ça, c'est vraiment la grande surprise que j'ai eue avec ce jeu, c'est qu'il y a effectivement un mélange entre donc le combat de corps à corps, le gunfight et aussi un petit peu de télékinésie, donc avec un gant qui nous permet de nous saisir des ennemis et de les propulser dans des éléments du décor. Et je trouve que cet équilibre-là est assez bien géré et moi, vraiment, je passe un bon moment dans les combats. Vraiment.
Et donc, c'est vraiment le gameplay qui te... Il est très différent de celui de Dead Space, du coup ?
Oui, bah oui, 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 parce que là, c'est, ça incite vraiment au rapprochement en, en permanence. Enfin, on peut pas se contenter de combats à distance. Il y a, c'est vraiment, je me suis rendu compte, en fait, sur certaines phases qui m'ont donné pas mal de fil à retordre, qu'il faut constamment être, ça fait, on a l'impression que je parle d'un taf, mais il faut être constamment proactif. Enfin, vraiment, apprendre par cœur un petit peu, enfin, moi, c'est ma manière de jouer, apprendre par cœur là où les ennemis vont tomber et aller à leur rencontre pour jamais se laisser submerger, parce que c'est vraiment un jeu où contre un ennemi, ça passe. Je trouve avec deux personnes ou trois ennemis, ça part très vite en vrille. Donc il y a un côté un peu apprentissage par cœur et le combat à la matraque, le combat au flingue et le combat avec ton gant qui permet de propulser les ennemis, que moi je trouve assez chouette.
D'accord. Bon bah écoute, donc plutôt positive pour un jeu qui... c'est marrant parce que les avis sont très partagés, quoi. Il y a vraiment des gens qui le trouvent juste raté et puis d'autres qui prennent beaucoup de plaisir. Mais c'est peut-être partagé, mais pas incompatible, hein, comme tu le dis. On peut le trouver raté par certains aspects, mais quand même l'apprécier, quoi.
Ouais, c'est ça. Enfin, vraiment, moi, c'est les combats, en tout cas, qui font le sel de l'expérience pour moi. Et pas tant l'ambiance, finalement, ce qui est un peu curieux, parce que dans Dead Space, c'était tout le truc qui me mettait dedans, mais là, au final, bon, voilà, on navigue effectivement dans une prison spatiale, mais c'est pas l'aspect qui me séduit le plus.
D'accord. Super, bah Callisto Protocol, plutôt une réussite, du coup, très bien. Enfin, plutôt une réussite, on y prend du plaisir, clairement. Pour ma part, j'ai joué à deux choses... Bon, je vais commencer par God of War. J'ai une relation très ambiguë avec God of War, enfin ambiguë, très compliquée. C'est difficile entre nous et j'ai l'impression que c'est le cas pour pas mal de gens. En tout cas, c'est ce dont témoignent certains sur le Discord. J'ai envie de le finir. Je sais que je suis presque au bout, mais j'ai un petit peu du mal à m'y mettre et je me force un petit peu. Quand je m'y mets, à tel point que là, je suis descendu d'un cran en difficulté, parce que j'ai envie d'arriver au bout, j'ai envie de savoir ce qui se passe, mais j'ai plus hyper envie de me taper tous les combats et tout. Enfin, il est vraiment trop long pour son propre bien, ce jeu. Je suis ressorti du truc de ma session, vous vous souvenez, ma femme était allée avait emmené les enfants chez sa grand-mère, enfin chez sa mère, et donc je m'étais fait une session de genre 25 heures, 30 heures dans le week-end de God of War, et en étant ressorti, re-rentrer dedans, c'est un petit peu dur, quoi. J'ai envie de jouer à d'autres trucs, genre je parlais de Destiny, il y a une nouvelle saison, j'ai vraiment envie de jouer à Destiny, mais je veux finir God of War pour pouvoir vraiment donner un avis complet sur le jeu, et je me force un peu, ou alors j'ai envie de jouer à Overwatch ou ce genre de truc et je me force un peu. Et pourtant, le jeu est bien, j'y prends du plaisir. Quand je joue, je trouve qu'il y a plein de qualités et quand je me replonge un petit peu dedans, je reprends vraiment le plaisir que je prenais au début. Mais je sais pas, il y a cette sorte de mi-chemin d'ambivalence qui fait que c'est pas... Je me... Ouais, voilà, j'y vais pas naturellement, quoi. C'est un peu bizarre. Donc on verra, j'ai joué un petit peu plus et j'espère le finir avant la semaine prochaine pour notre épisode GOTY, hein. La semaine prochaine c'est la folie des GOTY avec oui. Tous les invités réguliers de l'émission normalement. Et puis j'ai aussi joué à la démo de Forspoken. Et la démo de Forspoken, comment dire ? Est-ce qu'il y a un effet sonore pour dire vraiment il n'y a rien qui va ? C'est un peu la trompette triste, quoi. C'est poids, poids, poids. Vraiment, il n'y a rien qui va, quoi, dans cette démo. Je ne comprends pas. À tel point que je comprends. Il y a deux possibilités. Soit je suis passé à côté du jeu, et c'est possible, hein, je suis passé à côté de jeux sur lesquels j'ai dû insister pour comprendre le plaisir du truc et qui ensuite se sont avérés être des vraies réussites que j'ai parfois adorées. Complètement possible, soit, mais je comprends pas comment ils ont pu sortir ce truc en démo. En plus, une démo, c'est censé te donner envie de regarder un petit peu plus loin dans le jeu, te donner du plaisir pour que tu veuilles l'acheter, quoi. Là, il y a rien qui va. Le gameplay est abyssal.
Ah oui.
La narration est soit inintéressante, soit super irritante avec ton compagnon, le bracelet là, qui te parle tout le temps dans un mode waouh, on se moque un petit peu de tout, c'est cool, on est potes, lol. Et pourtant je suis client de ce genre de truc, hein. Mais là c'est 10 fois trop. Le système de jeu en lui-même, j'y comprends rien. Mais alors, rien du tout. Tu peux loquer les ennemis, mais tu leur tires pas vraiment dessus. C'est hyper dur de cibler. Les recharges de tes coups prennent super longtemps. Et en plus, avec la manette adaptative, t'arrives pas à bien appuyer. Enfin, il y a rien qui va. Et je me dirais, c'est moi qui suis trop dur avec le jeu. Mais c'est quand même l'impression que j'ai eue de tous ceux qui l'ont essayé. Tout le monde se met la main sur la tête en se disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Non seulement pour le jeu, parce que des jeux mauvais, il y en a tout le temps, mais sortir une démo comme ça, peut-être que c'est parce que tu n'as pas eu le temps d'apprendre de quoi il s'agissait, à prendre en main le truc, c'est possible. Mais la démo, elle est... Enfin, j'ai rarement vu une démo.
Elle a l'air très vendeuse.
Ouais. C'est, mais exactement ça. Elle vend pas le truc du tout. Ça me fait penser à, c'était lequel? C'était Stranger of Paradise. Non, même pas. Stranger of Paradise, c'était fun. Le gameplay, il y avait des trucs qui fonctionnaient, quoi. Je sais plus, il y avait une démo qui était tout aussi catastrophique il y a quelques temps. Mais, donc, alors, Forspoken, je comprends pas.
D'autant plus. Très bientôt, hein. Il sort le mois prochain, je crois, le 24 janvier.
Ouais. Exactement.
Écoute, on se sera tous la main sur la tête.
Mais c'est possible. Et alors que s'ils n'avaient pas sorti de démo, il y aurait des gens qui, tu vois, sur un malentendu, tu l'as précommandé, tu l'annules pas ta précommande. Mais pourquoi sortir une démo comme ça? Là, c'est te lever de ta chaise et agiter des drapeaux rouges, genre faites gaffe, surtout au minimum, attendez les reviews avant d'acheter le jeu, quoi. Moi, je suis sûr qu'il y a genre 45% des précommandes qui ont été annulées suite à cette démo. Je comprends pas. Il y a quelques personnes qui ont dit « Ah non, c'est sympa quand même », mais elles sont rares. Et je comprends pas ce qu'ils ont trouvé de sympa, mais bon. Bref, j'espère me tromper et que Forspoken, ça sera super fun au final. J'ai vu quand même, je dois dire, j'ai vu quelques rares personnes qui disaient « Mais en fait, le parcours dans ce jeu, qui est quand même assez basé sur le parcours est super fun, mais le jeu ne te le montre à aucun moment. Il t'explique à aucun moment comment ça fonctionne et comment faire ces trucs-là. Il y a des trucs de parcours qui fonctionnent. Donc, peut-être qu'il y aura quand même des choses qui fonctionneront hein, dans le jeu, c'est possible. Mais bon, c'est juste que je ne les ai pas vues, quoi.
Oui, et puis j'ai quand même l'impression qu'il y a des retours un peu différents sur la part de personnes qui ont pu jouer à des previews un peu plus longues que la démo. Ils sont peut-être un peu plus enthousiastes, mais ouais, enfin, ça, de toute façon, on verra en janvier, quoi.
En janvier, exactement. Et donc, nous voilà, nous dirigeons donc vers la dernière partie de l'émission avec les news qui passent un petit peu plus vite. On a d'une part Bandai Namco qui a déposé un nom pour Tales of Arise. C'est quoi le nom? Que je vous dise pas de bêtises. Tales of Arise Beyond the Dawn.
Wow.
A priori, il y aura pas de DLC, hein. Donc ça sera pas un DLC, c'est peut-être un animé ou un truc du genre, possiblement. Donc, il y aura quelque chose pour Tales of Arise. Vampire Survivors est arrivé sur mobile en version gratuite. Enfin, free-to-play, en tout cas. Donc, vous pouvez aller sur votre mobile et télécharger Vampire Survivors. Aucune raison de ne pas le faire.
Et découvrir le crack et l'addiction.
C'est ça. Oui, voilà, c'est peut-être une raison de ne pas le faire, en fait. Si vous tenez à votre temps et à votre santé mentale. The Witcher 3, la version PS5 est assez bien reçue, je trouve, surtout que c'est une mise à jour gratuite. Ça m'a même donné envie de réinstaller The Witcher 3. Alors, j'ai pas le temps de jouer, donc j'ai peu de temps pour jouer, donc je dois être sélectif, donc je l'ai pas fait. Mais ça m'a presque donné envie de réinstaller The Witcher 3, surtout que c'est une mise à jour gratuite, donc pourquoi se priver? Returnal arrivera sur PC en 2023, début 2023, et The Last of Us Part 1 arrivera sur PC aussi le 3 mars 2023, moins cher que sur PS5 en plus. Donc,
ça faisait tellement longtemps en plus que c'était, enfin en tout cas pour le cas de Last of Us, que c'était attendu. Enfin, ouais. je suis quand même hyper contente pour tous les joueurs PC qui vont découvrir le bonheur, quoi. Et pareil pour Returnal, que j'avais aussi beaucoup aimé. Je sais pas si tu l'avais fait, mais je suis assez curieuse de... Je trouve que le jeu faisait vraiment une très bonne utilisation de la DualSense, dans le sens où la manette, enfin vraiment ce qu'on ressentait dans la manette, c'était au moins aussi informatif que ce qu'on voyait à l'écran, et ça permet d'archiver les ennemis, etc. Enfin, selon les sons qu'on entendait, donc je suis curieuse de voir à quoi ça va ressembler sur PC. Mais j'avais adoré ce jeu, vraiment très contente qu'il voit le jour.
Je suis pas allé au bout, mais je l'ai aussi trouvé vraiment bien, et j'étais assez content pour... merde, le nom du studio m'échappe maintenant.
Ah oui, moi aussi, attends.
Damned. Housemarque, voilà.
Bien vu, en plus, qui ont été rachetés.
Housemarque, qui a été racheté par Sony, évidemment, mais j'étais content pour Housemarque, qui a réussi à faire... comment dire, translater sa maîtrise des jeux d'action arcade dans un truc peut-être un petit peu plus en phase avec les styles de jeu du moment, donc un TPS.
Ouais, roguelike.
Qui a vraiment bien fonctionné, quoi. Et puis, les personnages de League of Legends, Valorant, Wild Rift sont désormais tous disponibles aux abonnés Game Pass. Donc, si vous êtes abonné Game Pass, vous avez accès à tous les personnages débloqués sur ces jeux-là, les jeux de Riot. Ils l'avaient annoncé à l'été et c'est désormais le cas. Et puis dans les news un petit peu différentes, d'une part, il y a eu un article assez intéressant du Washington Post sur le crunch dans l'équipe de Diablo 4 et surtout le fait que il semblerait que la boîte ait eu le développement du jeu ait été assez erratique, avec des directions qui semblaient être assez, comment dire, incertaines. Et le fait que les développeurs semblent dire on ne sait pas comment on va le sortir en juin sans cruncher.
Oui, c'est ça. Ça a l'air d'être la panique totale de leur côté. Ouais.
Ouais. Donc, sans cruncher à fond, ou alors il ne sera pas bien fini. Donc peut-être que ça sera un mix entre les deux, ce qui n'est pas forcément réjouissant. Les premières impressions sont très bonnes sur les tests qu'on a vus par les différents influenceurs qui ont pu tester les premières heures de jeu et la première zone. Mais cet article du Washington Post est un petit peu inquiétant. Donc je voulais le mentionner. C'est un article de Shannon Liao. Espérons que c'était des choses qui étaient surtout du fait des problèmes qu'on a connus chez Blizzard, enfin qui ont été mis à jour en 2021 et que les choses vont mieux aujourd'hui, en moins sur certaines parties de ce dont parle l'article, quoi. Une autre donnée intéressante, le jeu mobile semble avoir une réduction. Un ralentissement, même pas juste un ralentissement, mais une réduction de ses revenus pour la première fois depuis l'existence du marché du jeu mobile. C'est la société, la firme Newzoo qui dit que le jeu mobile devrait tomber, enfin le comment dire, les revenus du jeu mobile devraient descendre de 6,4% à 92 milliards de dollars quand même, donc ça va pour 2022, contre une croissance de 7,3% en 2021. Donc ce qu'on retient surtout, c'est que c'est la première année où il n'y a pas de croissance et au contraire, il y a moins de revenus dans le jeu mobile. Donc bon, on verra si ça a des conséquences ou quoi que ce soit, mais à noter. Et puis, confirmation que Amazon sera le diffuseur de la série God of War. Alors, je suis très curieux de voir comment ils pourront adapter une série God of War, enfin, adapter le jeu.
Apparemment, ça va vraiment se concentrer sur l'aspect narratif.
L'aspect narratif de quoi, pardon ?
Vraiment, enfin, sur le lien filial entre Kratos et Atreus, quoi.
Ouais. Donc c'est clairement cette version de God of War qu'ils vont utiliser, oui. Et pas la première, ce qui est, enfin, celle de...
Ça aurait été très étonnant, ça, je pense.
Oui, ouais, d'accord. Encore que ça peut être intéressant. Évidemment, il faudrait transformer énormément de choses, mais ça peut être une histoire intéressante à raconter, hein, aussi. Un mortel qui se rebelle contre la cruauté des dieux et qui va décimer le Panthéon. Alors, il faudrait un style vraiment différent, il faudrait tout réécrire, mais ça pourrait être intéressant, je crois. Peut-être qu'ils feront God of War Origins, si la série marche bien, et qu'ils raconteront cette partie à un moment. Mais il y a du beau monde hein, sur l'équipe qui va développer le truc, donc on a Cory Barlog qui sera impliqué dans le jeu. Bon, forcément, il est en tant que producteur, mais voilà. Et puis, il y a des gens qui ont travaillé sur La Roue du Temps. Alors, ça vous plaira peut-être pas, mais moi, je l'avais trouvé pas mal. Et bref, des scénaristes de talent, des gens qui pourraient nous sortir quelque chose de bien. Et puis, dernière chose, je voulais finir avec une vidéo qui m'a vraiment marqué, choqué. c'est une streameuse qui a fait du Elden Ring. Alors on a tous vu les défis débiles de Elden Ring, hein, genre je joue avec un tapis de danse, je joue avec une guitare, je joue avec Dieu sait quoi à Elden Ring. Et ben là, elle a décidé de jouer avec un tapis. Et là vous dites, c'est tout.
C'est bon, on a déjà vu
un tapis de danse. Sauf qu'elle s'est dit, c'est un peu trop facile de jouer juste avec un tapis, donc je vais jouer sur un jeu avec un tapis de danse et en même temps l'autre avec ma manette PS5. Elle s'appelle Miss Mika et elle joue donc à deux Elden Ring en même temps, un avec la manette et un avec son tapis de danse.
Et contre Malenia, qui est la boss la plus difficile du jeu, quoi. C'est vraiment un sacré délire. Je crois qu'elle dit qu'elle a fait plus de 500 essais pour y arriver, quoi.
La vidéo que j'ai vue, c'est pas Malenia, hein. Si.
Ah ouais?
Je crois pas. Moi, j'ai vu une. Alors, il y en a peut-être d'autres, hein. Peut-être qu'elle a réussi, mais moi, j'avais vu contre un troll. Et déjà, c'était incroyable. Mais elle a réussi à battre Malenia avec ses deux. Les deux en même temps.
Elle avait fait, en tout cas, avec un tapis de danse.
D'accord. C'est vrai que t'as raison. Ah oui, alors le tapis de danse seul, peut-être qu'elle avait fait.
Oh là là, elle annule.
mais c'est vrai que moi, j'aime bien. En même temps, incroyable.
Complètement débile, où tu te dis, mais où est-ce que ça va s'arrêter?
C'est ça, ouais. C'est ça. Mais là, c'est une étape quand même. Deux en même temps. Alors après, il faudra une guitare et un tapis de danse, tu vois. Je sais pas, mais assez fou, quoi. Donc voilà pour nos news de la semaine. Je crois qu'on a à peu près tout couvert. Hein. C'était bien rempli et bien sympathique. Merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cet épisode, Julie.
Je t'en prie avec plaisir. Et désolé, du coup, pour les moments où peut-être tu ne m'entendais pas, parfois je
m'en
rendais
pas compte. Mais c'est de ma faute. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il y a un souci sur ma connexion Internet. Je pensais l'avoir réglé avec un changement de canal et des trucs comme ça. Et clairement, je ne l'ai pas réglé. Donc, c'est moi qui m'excuse auprès des auditeurs et auditrices. Mais toi, tu as été absolument parfaite comme toujours, Julie. Tu vois, tu as été coupée juste là quand tu...
Ah non, j'étais juste très flattée, je te remercie.
Et j'ai l'immense plaisir de dire qu'on va pouvoir se retrouver la semaine prochaine aussi pour notre épisode GOTY. Alors là, il n'y aura pas de problème de connexion, je pense.
Et là, il y aura des... Contrairement au Game War. Il y aura peut-être des surprises dans nos propres GOTY.
Ah, c'est vrai. Mais d'ici là, où peut-on te retrouver? Dis-nous tout.
Alors, vous pouvez me retrouver sur Twitch. Pseudonyme Hélène Ripley, R-E-P-L-A-Y, dans un habile jeu de mots, et sur Twitter sous le pseudo ICTH. Terrible pseudo.
Le lien sera dans les notes de l'émission vers le compte Twitter, donc vous n'aurez même pas besoin de retenir ce terrible pseudo, vous pouvez juste cliquer pour y aller. Pour ma part, c'est NotePatrick un petit peu partout, et aussi sur notepatrick.com, et dans les notes de l'émission, vous retrouverez également le lien vers le compte Patreon, c'est ça que je veux dire, le compte Patreon, pour soutenir l'émission si vous le souhaitez, si vous passez un bon moment en notre compagnie, patreon.com/rdvjeu, évidemment. ça va être tout pour cet épisode. On vous remercie de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour le gros épisode GOTY. Ça va être monumental, je vous le promets. Ciao à tous et à toutes. Bisous.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.